Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Minute Papillon.
Salut, c'est Laetitia Béraud. Bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de sexualité avec mon invité du jour, Maya Mazorette, autrice, chroniqueuse sexualité et illustratrice. Pour qualifier Maya Mazorette, on dit souvent que c'est une sexperte. Je trouve que ce mot est assez moche, mais il recouvre une réalité. Cela fait 15 ans que Maya Mazorette travaille sur les questions de sexualité, de représentation des corps. Et cette semaine, elle publie pas un, mais deux ouvrages. Le sexe selon Maya aux éditions La Martinière et Sortir du trou, lever la tête aux éditions Anne Carrière. Son analyse, la sexualité contemporaine, ça va pas fort. Entre lassitude, désenchantement, la faute à un imaginaire réduisant les femmes à leur sexe, à des trous selon elle. Une sexualité obsédée par la pénétration vaginale ou encore la culpabilité, voire l'angoisse de la performance. Mais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça, c'est ce qu'elle va nous dire dans quelques minutes. Ma première question à Maya, c'est ça fait pas un peu beaucoup d'avoir deux bouquins qui sortent la même semaine ?
En sexualité, en fait, on est complètement dans l'excès. On peut tout se permettre. C'est le règne de la liberté. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que normalement, les lecteurs et lectrices me connaissent plutôt par les chroniques du Monde. Ça, c'est ce que les gens voient. Donc, je saute d'un sujet à l'autre en permanence. Mais ça ne veut pas dire que moi, dans ma tête, je n'ai pas une théorie unificatrice qui rassemble tout ça. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas un propos. Et ça, c'est dans le deuxième livre, Sortir du trou, lever la tête. Et en fait, les deux livres, c'est la même personne, mais c'est juste, ça permet en fait, d'avoir un espèce de champ complet de la sexualité d'aujourd'hui.
Pour ce deuxième ouvrage, donc on dit bien qu'il y en a deux aujourd'hui. Alors, c'est un ouvrage un peu étonnant. D'abord, l'objet, on voit assez rarement en fait, en librairie, un essai qui est en deux parties, un côté face et un côté pile.
Ou
un côté
voilà, pile on peut et un le lire fils. Dans les deux sens. C'est un peu mon double maléfique et mon double bénéfique qui s'exprime. Non, en fait, il y a une première partie pamphlétaire sur tout ce que j'estime être les problèmes de la sexualité contemporaine. Et quand on le retourne, et quand on est bien... Quand on est bien déprimé par la première partie, en fait, on a toutes les solutions parce que moi, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un de même utopiste, idéaliste. Et c'est important de ne pas être toujours dans la dénonciation des problèmes et d'arriver avec une masse de solutions. Mais l'un ne va pas sans l'autre. D'où le fait d'avoir comme ça un objet un peu ovni pour pouvoir justement creuser tous les aspects de cette thématique.
Dans le premier essai, Sortir du trou et échapper à notre vision étriquée du sexe, pour résumer, c'est un constat que la sexualité d'aujourd'hui est désenchantée, voire triste, voire lasse. Et pourquoi ? Pourquoi elle est désenchantée ? Parce que les femmes ont été réduites, donc à cause d'un imaginaire multiple, à des trous.
Exactement. Vous avez fait un résumé parfait et c'est pas facile. Voilà, il y a cette question des femmes comme trous. Et rien que le mot, en fait, on voit bien qu'il nous gratte un peu, il nous heurte. Et on pourrait se dire, mais évidemment que les femmes, c'est un espace négatif, c'est un espace creux, parce que les hommes ont un pénis, les hommes et les femmes sont complémentaires, donc forcément, les femmes doivent avoir cet espace en elles qui est un espace d'accueil, de réceptivité, de passivité. Et évidemment que depuis 10 ans, enfin que mon livre sur le clitoris est sorti, on a vraiment entendu que le sexe des femmes n'était pas seulement à l'intérieur, n'était pas seulement un espace de réception, était aussi un espace extérieur. Et puis aussi, il n'y a pas que le sexe dans la sexualité, enfin pas que le sexe anatomique, il y a aussi les mains, il y a aussi les sextoys, on peut faire plein de choses. Donc pour rendre aux femmes tout le potentiel de leur plaisir, de leur jouissance, de leur corps, il y avait justement arrêté de les considérer comme des trous, arrêté de considérer que leur sexualité se passe dans des trous et qu'il y a du muscle, il y a du nerf, il y a des terminaisons nerveuses, c'est la même chose que les nerfs. Maintenant, ce qui va se passer, c'est aussi rétablir la continuité entre les hommes et les femmes qui sont chacun, internes et externes, parce que nous sommes tous et toutes des personnes complexes. L'excision suivante, en fait, c'est aussi celle des hommes qui, eux, sont jamais considérés comme des trous. Eux n'auraient jamais aucune intériorité, aucune réceptivité, alors que sexuellement, la prostate, c'est un truc qui marche très très bien. Donc c'est intéressant pour moi de redonner aux femmes leur intégrité, mais aussi parce que je veux redonner aux hommes leur intégrité. Donc le livre et les livres, ils sont pour tout le monde, évidemment.
Vous dites, c'est un pamphlet, aussi un manifeste, parce que la fin de se sortir du trou, c'est de dire « je ne suis pas un trou ».
Oui, et c'est marrant qu'on doive encore le dire aujourd'hui. En fait, cette question de la dignité, en fait, elle est rarement posée parce qu'en sexualité, on préfère évacuer la question de l'éthique en permanence. On se dit, oh, la sexualité, c'est un espèce de monde à l'envers où les règles qui régissent notre vie de tous les jours, nos préférences devraient d'un seul coup ne plus exister. Donc on se dit, ah, bah, c'est la nuit, c'est la transgression, ce qui donne de la douleur va donner du plaisir, je veux être féministe, mais en même temps je veux être soumise. Et on voit bien qu'à l'arrivée, ça crée un peu des dissonances cognitives, des petits décalages, et puis on se réveille le matin et on se reconnaît pas vraiment complètement dans le miroir, donc ça crée de la gêne. Et ensuite, ça fait des personnes qui disent la sexualité c'est gênant en soi, alors que, bah non, ce qui nous gêne, c'est ce que nous on fait, c'est le fait de pas être en adéquation avec nos valeurs. Donc effectivement, il y a un aspect manifeste dans le livre qui est de savoir comment est-ce qu'on fait concrètement, pratiquement, pour avoir une sexualité alignée dans son cerveau, dans son cœur, dans son clitoris et dans ses doigts de pied s'il le faut. Mais vraiment, je le pense sincèrement.
Et c'est pour ça qu'il faut lever la tête.
Et voilà, et c'est pour ça qu'il faut lever la tête.
Ce qui est le nom du deuxième essai.
Voilà, ça c'est la deuxième partie, donc c'est vraiment très pratiquement comment on fait. Et je vois bien que du côté de mon public, il y a une attente énorme parce que les gens ils sont là en train de se dire « Oui, enfin bon, à un moment, c'est normal qu'on s'ennuie, c'est normal que peut-être les femmes elles soient un peu plus timides, les hommes ils soient un peu plus bourrins, des choses comme ça. » Alors que non, il n'y a aucune fatalité, c'est juste qu'on n'a pas le répertoire, on n'a pas la culture. Et on n'a pas la culture aussi parce qu'on considère que la sexualité n'est pas une donnée culturelle en mouvement, d'ailleurs. Alors que moi, c'est un langage, c'est un art, c'est exactement comme la peinture. Il doit y avoir des musées du sexe. Et ça veut dire que cette culture, il faut des personnes pour la transmettre, il faut des fois des personnes pour l'inventer, il faut accepter qu'elle puisse être enseignée, reçue, c'est-à-dire être humble, suffisamment humble pour accepter d'apprendre et d'apprendre tout au long de sa vie. Et j'ai hâte, en fait, de voir en fait, cette espèce de nouvelle génération qui se lève, parce que je ne suis pas la seule en fait, à faire ça, de personnes qui disent « Ok, qu'est-ce qu'on fait avec la sexualité aujourd'hui, avec évidemment le mouvement MeToo, la prostitution, la pornographie, Internet, enfin tout ce qui change aujourd'hui ?» Parce qu'évidemment, ce livre, je n'aurais pas pu l'écrire il y a 10 ans, je n'aurais sans doute pas pu l'écrire il y a 5 ans. Donc ça, c'est aussi une espèce de passerelle entre un monde sexuel qui est en train de disparaître complètement et un futur qui nous laisse tous complètement perplexes et déconcertés parce qu'on ne sait pas comment s'adapter au présent. Et moi, j'ai envie de dire, ok, c'est mon boulot, ça fait 15 ans que je fais ça. Alors, je ne dis pas que j'ai la vérité, évidemment, la science infuse surtout, mais par contre, j'ai des clés et je pense que j'ai vraiment des choses à apporter aux lecteurs et aux lectrices pour se sentir mieux et pour jouir plus, ce qui est pas mal.
Ce qui serait pas mal, ouais.
Voilà.
Et alors, quand on parle de sexualité solaire, qu'est-ce que c'est ?
C'est aller du côté lumineux de la force. Non, l'érotique solaire, elle a été appelée par Michel Onfray, il y a une éternité. Alors je sais que Michel Onfray n'est pas toujours hyper...
Ah oui, bah dis donc, je ne savais pas qu'il avait travaillé le sujet.
Il a travaillé le sujet il y a très longtemps. Et moi, je l'ai lu il y a très longtemps et il faisait le constat qu'on n'avait pas d'érotique solaire. Et j'étais une très jeune femme et je me suis dit, moi, je l'écrirai un jour. Donc Michel, si tu nous écoutes, ça y est, c'est bon, c'est fait.
On lui transmettra.
Voilà, transmettez-lui. Oui, parce qu'en fait, le monde de la sexualité, c'est aussi un monde de la nuit. Rien que par exemple dans le code couleur des sextoys, des sex-shops, c'est toujours rouge foncé, noir, violet. C'est marrant, c'est comme s'il y avait toujours moyen de se cacher. C'était toujours un peu ces heures creuses. D'ailleurs, ça fait partie des solutions que je donne. Pourquoi pas prendre plus de temps, d'autres temporalités pour le sexe. Évidemment que si on fait toujours les choses à la même heure, dans la même position, dans les mêmes conditions, au même endroit, évidemment qu'on va commencer à reproduire les mêmes habitudes. Donc ça, c'est un très bon conseil. Prendre plus de temps, ralentir. Et plutôt que de faire l'amour en 5 minutes, 2 fois par semaine pour rentrer dans des statistiques qui sont absurdes, faire l'amour une fois tous les 2 mois, très bien, mais prendre 3 heures.
Waouh. Là, j'arrive pas à répondre.
Non, mais voilà, on est vendredi, vous avez tout le week-end pour passer aux travaux pratiques. Donc voilà, donc pour ceux qui nous écoutent en ce moment, voilà, donc demain, c'est le week-end, prenez 3 heures.
Il y a aussi un des conseils, si on peut dire conseil, de se redécouvrir, et notamment le corps masculin. On érotise beaucoup le corps féminin qui est fait de courbes et oui. qui ne serait pas fait de lignes droites.
Non, parce que c'est bien connu, les femmes n'ont pas de d'ossature, n'ont pas de colonne vertébrale, alors que les hommes ne sont que des piliers de temple grec.
Voilà, c'est ça.
Comme on peut le noter en marchant dans la rue, là.
Exactement, et toujours le sexe dressé. C'est pour ça que c'est un homme droit.
Et toujours le sexe dressé, exactement. Non, et c'est pas que des questions purement physiques, comme ça, où on rigole. Ça induit, en fait, tout un imaginaire qui va bien plus loin que la seule corporéité, qui est que si les hommes sont tout droits, ça veut aussi dire qu'ils vont penser droit, ça veut aussi dire qu'ils vont penser de manière légitime. Et si les femmes, elles sont courbes, elles sont sinueuses, ça veut aussi dire que quand elles disent quelque chose, c'est un peu mou, en fait, ce qu'elles racontent, c'est un peu négociable. Et en vrai, ça devrait pas être négociable, par exemple sur le consentement. Donc oui, évidemment que c'est qu'on a beaucoup parlé des femmes ces dernières années, et bien sûr qu'il y avait besoin et qu'il y a toujours besoin. Mais je pense que maintenant, il faut aussi passer à l'étape supérieure et dire comment est-ce qu'on réincorpore les hommes dans ces discours, dans ces controverses, dans ces polémiques, parce qu'on voit bien que des fois ils se sentent un petit peu abandonnés dans le discours, et que bien sûr il y a une souffrance masculine qui n'existe pas au même niveau, mais que être invisible, être ignoré, ne pas être complimenté quand on est un homme, voir son corps un petit peu oublié, avoir un corps qui n'est pas considéré comme érotique, comme désirable, bah évidemment que c'est grave, et évidemment que ça induit des comportements qui peuvent être parfois, alors pas de prétention, mais un peu plus agressif, parce qu'on se dit je suis pas assez désirable, donc je vais devoir m'importuner les femmes, je vais devoir m'y prendre différemment. Moi je pense qu'il y aurait des choses merveilleuses à faire en développant chez les hommes une séduction passive. Alors passive, c'est pas un mot qui me plaît ensuite, parce que évidemment que c'est pas passif.
Soumis.
Quand les femmes passent trois minutes ou trois heures dans la salle de bain le matin pour se faire belle, pour être aussi mais présentable au monde, pour être
120 heures par an.
Oui, c'est
bien
ça.
Les 20 minutes du matin, ça fait 120 heures par an. Petite parenthèse fermée.
Non, mais c'est une parenthèse vraiment très intéressante. Et moi, j'aimerais que les hommes investissent ce champ-là de la séduction. Déjà parce que je suis une femme hétérosexuelle et que j'ai envie de voir des hommes très séduisants dans la vie de tous les jours, mais aussi parce que eux, ça leur ferait vraiment du bien d'être désirés. Et peut-être qu'ils n'auraient pas besoin de prendre toujours l'initiative sexuelle, par exemple, s'ils étaient plus désirables. Je crois qu'il y a une statistique qui dit que, de mémoire, c'est 44% des femmes ne prennent jamais l'initiative au lit. Mais il va de soi que l'initiative, c'est plusieurs choses. C'est aussi de se rendre désirable. Et dans ces conditions, la femme, elle est toujours en train de prendre l'initiative. Parce que quand elle se met en position d'être désirée, ça, c'est une initiative. Et moi, j'aimerais que les hommes prennent cette initiative-là, de dire comment est-ce que je fais pour donner aux femmes envie.
C'est une charge mentale aussi pour les hommes ?
Oui, ça devrait être une charge mentale, comme tout le reste, comme les tâches domestiques. Non, mais ça fait partie de ces espèces de ce travail invisible que les femmes font en permanence, qui n'est pas payé, qui n'est pas reconnu, qui est invisible. Et on devrait râler, évidemment, sur la charge de désir, sur la charge émotionnelle, la charge sexuelle. Et aussi parce que, bien sûr que moi, je défends une position de femme parce que je suis une femme et que je défends mes intérêts. Mais je suis absolument sûre que les hommes auraient tout à gagner à entendre ce discours-là et à acheter mes livres.
Merci encore à Maya Mazorette pour cet entretien. Elle sort donc 2 livres cette semaine. Quant à Minute Papillon, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Si Minute Papillon vous plaît, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou la plateforme que vous préférez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Très bon week-end, on se retrouve lundi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.